Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Alors qu'elle célébrait le 11 avril dernier le 100e anniversaire de sa fondation, la Jordanie est généralement l'un des pays du Moyen-Orient les moins placés sous les feux de la rampe, en sa qualité sans doute d'oasis de stabilité et de sécurité. Une économie stagnante même avant la pandémie qui s'est contractée de 5% l'an dernier alors que le chômage touchait 25% de la population et jusqu'à 48% des Jordaniens âgés entre 20 et 24 ans. Les guerres dans les pays voisins que sont la Syrie et l'Irak ont particulièrement affecté le pays, lequel de petite taille est dépourvu de richesses en son sous-sol. Peu de pétrole ou de gaz, pas beaucoup d'eau pour ce territoire coincé entre Israël, la Syrie, l'Irak et l'Arabie Saoudite. Amman n'en sait pas moins tirer profit de sa localisation stratégique et de sa politique étrangère docile pour s'attirer l'aide de ses alliés, pays du Golfe et États-Unis, mais cette aide s'assèche. En 2011, la Jordanie recevait 5 milliards de dollars d'aide de la part des États du Golfe. Elle n'en recevait plus que la moitié en 2018. Les Jordaniens sont décrits comme ayant perdu confiance dans leurs leaders, qui sont vus comme corrompus et incompétents. Récemment, l'image d'unité cultivée par la famille royale s'est trouvée écornée par des dissensions révélées au grand jour avec l'annonce de l'assignation à résidence du prince Hamza Ben Hussein, le demi-frère du roi Abdallah II, mis à l'écart du trône en 1999. Le prince Hamza est mis en cause ainsi que deux personnalités proches de l'Arabie Saoudite dans une tentative de déstabilisation du royaume en collaboration avec une puissance étrangère non identifiée. Regard sur la scène politique jordanienne et la place de la Jordanie dans un Moyen-Orient en pleine recomposition. Nos invités par téléphone, Anna Jaber, directrice scientifique de la Fondation Lokman Slim et chercheuse associée à la chaire Histoire du monde arabe contemporain. Bonjour.
Bonjour.
En studio avec moi, Agnès Levallois, maîtresse de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique et vice-présidente de l'IREMO. Bonjour.
Bonjour.
Et depuis les studios de nos confrères de Radio France à Lyon, Marc Lavergne, géopolitologue et directeur de recherche émérite au CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Entre rivalité au sein de la famille royale et le ressentiment croissant de la population face à l'échec du gouvernement à mener à bien des réformes économiques et politiques, on dit le roi Abdallah II dans une situation peu enviable, tant au niveau intérieur que régional. Commençons par les aspects intérieurs. Que s'est-il passé récemment exactement en Jordanie et de quoi la crise est-elle le résultat, Jana Haber?
À vrai dire, c'est la dernière crise et l'aboutissement d'une situation, disons, d'un malaise cumulatif depuis de longues années. C'est pas nouveau. Maintenant, c'est la manière dont elle a éclaté qui est assez intéressante. Ça fait un moment que, d'abord, qu'il y a, depuis 2011-2012, il y a eu beaucoup de mouvements sociaux par les syndicats. Il y a eu un malaise aussi des mouvements, des mobilisations politiques, notamment par les frères musulmans. Il y a un malaise au sein de la composante transjordanienne, notamment dans les périphéries du royaume et au sud et donc à l'est. C'est ce qu'on appelle les tribus. Il y a toutes sortes de malaises qui font que la situation ne pouvait pas continuer et que beaucoup au niveau intérieur s'interrogeaient sur les alternatives possibles. Le roi lui-même se trouve, comme vous l'avez très justement dit, dans une situation peu enviable. Et donc c'est le constat global. Maintenant, il y a aussi, faut prendre en compte le fait que les Jordaniens sont attachés à la monarchie, ça c'est important, dans toute la composante. Et donc en l'occurrence, toutes les tentatives de réforme, de changement, de transformation se font dans le cadre d'un modèle monarchique. D'où cet appel ou cette alternative qui s'est posée. Nous ne savons pas grand-chose en fait sur ce présumé coup d'État. Il y a plusieurs pistes, plusieurs lectures. En fait, ça peut être une sorte d'anticipation d'un coup d'État qui, de toutes les façons, n'aurait pas eu lieu. Au cas où ça deviendrait impossible coup d'État, autant l'anticiper. Ça, c'est la lecture très courante et courue, d'ailleurs, notamment chez un certain nombre des avocats des personnes qui ont été accusées. Deuxième lecture, c'est un coup d'État plausible qui rejoint une lecture géopolitique pour la constitution d'une sorte d'un arc sunnite pour contrer l'arc chiite en train de se composer au nord. C'est quelque chose, ça relève quand même de la théorisation. Nous ne savons pas grand-chose sur ce qu'il en est. Mais c'est une des lectures qui ont été avancées, mais ce qui veut dire que, en fait, par défaut ou logiquement, que le roi Abdallah se montrerait du côté de l'axe Iran, Union soviétique, etc., etc. Ce qui est confirmé de fait par le fait qu'il a signé des contrats, qu'il y a des contrats qui ont été signés dernièrement avec la Chine. Bon, après, on ne sait pas trop jusqu'à quelle mesure c'est vrai ou c'est pas vrai.
On reviendra bien sûr sur les questions de politique étrangère et de la place de la Jordanie dans son environnement régional. Agnès Levalleur, on a bien compris, sur le plan intérieur, il y a de plus en plus de critiques qui s'expriment à mesure que les problèmes de la Jordanie s'accumulent. Et je pense que la question de la pandémie n'a certainement pas arrangé les choses. Alors, premier des reproches faits par de nombreux Jordaniens, c'est l'immobilisme du roi Abdallah. Après ça, on parlera de la personnalité d'Hamza Ben Hussein. Agnès Levalleur.
Oui, ce qu'il faut bien comprendre, effectivement, c'est que c'est un petit pays qui est coincé, comme vous l'avez bien précisé dans votre introduction, entre d'autres puissances, est un petit pays avec peu de ressources et qui connaît régulièrement des manifestations, des contestations, des protestations, et qui ont eu lieu aussi en 2011 dans le cadre de tous ces soulèvements qui ont touché plusieurs pays de la région, où le roi, à ce moment-là, a pris quelques mesures pour calmer ces protestations qui se sont exprimées. Mais les protestations avaient déjà eu lieu dans les années précédentes et donc il y a un malaise social quand même important qui règne dans le royaume maintenant depuis des années, avec une économie quand même qui est très fragile puisqu'elle n'a pas beaucoup de ressources et qui est très dépendante de l'extérieur et donc avec toutes les difficultés que cela peut poser, et avec une question qui revient aussi en boucle lorsque l'on parle avec les Jordaniens, c'est la question de la corruption, c'est-à-dire que beaucoup de Jordaniens ont le sentiment que de toute façon une grande partie de cette aide extérieure qui est là pour normalement aider à développer le pays se disparaît dans les poches de certains, et donc ces critiques de la corruption sont très fortes et sont ressorties de façon évidente dans cet incident qui s'est déroulé maintenant il y a quelques jours au sein de la famille royale, où le prince Hamza justement a dénoncé ces pratiques, a dénoncé l'immobilisme politique, a dénoncé l'incapacité dans laquelle se trouve le roi de faire véritablement des réformes qui seraient indispensable. Il y a eu par exemple une grande grève, un grand mouvement de protestation au sein du domaine de l'éducation, organisé par le syndicat des enseignants, qui est un syndicat extrêmement fort. Une grève qui a été un mouvement social qui a été dur, mais finalement qui s'est arrêté sans que les professeurs obtiennent grand-chose. Donc on voit bien qu'il y a quand même une contestation qui est très forte, qui alimente, et on a le sentiment que le prince Hamza, effectivement, a pu capitaliser sur ce mécontentement très fort, accentué bien évidemment par la pandémie, puisqu'il n'y a pas tellement de filet social en Jordanie pour essayer de compenser toutes les mesures qui ont été prises pour tenter de limiter la pandémie. Mais il n'y a pas de système social permettant à tous ceux qui ont des petits boulots et qui n'ont pas pu le faire, d'avoir de la ressource, d'avoir simplement de quoi se nourrir. Et donc tout ça s'inscrit dans un contexte où effectivement le sentiment d'avoir un pouvoir qui est complètement déconnecté d'une réalité sociale qui est de plus en plus difficile pour une majorité de Jordaniens. Et donc, on peut comprendre effectivement dans ce contexte que ce qui s'est passé au sein de la famille royale n'est pas simplement quelque chose qui s'est joué au sein de cette famille, mais qui reflète vraiment un malaise beaucoup plus grand au sein de la société. Et j'insiste sur ce point, ça n'est pas nouveau. Il y a régulièrement ces mouvements de contestation, mais sans avoir le sentiment que le roi prend des vraies mesures. Il y a des petites mesures qui sont prises à chaque fois, mais sans que des vraies réformes de fond soient mises en œuvre pour tenter d'améliorer la situation.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Alors, la Jordanie, un petit pays, ce sont 10 millions d'habitants avec une écrasante majorité de personnes d'origine étrangère. Marc Lavergne, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le roi Abdallah II est une personnalité isolée? Et que nous dire du prince Hamza Ben Hussein, un opposant récalcitrant, qui a une grande popularité auprès du peuple jordanien?
Oui, alors je crois qu'il ne faut pas aller trop vite là-dessus, sur la popularité, par exemple, du prince Hamza auprès de l'ensemble des Jordaniens, c'est quelque chose d'un peu discutable, mais enfin, il a un soutien dans ce qui a été évoqué précédemment, c'est-à-dire les tribus qui sont d'origine transjordanienne. Hein. Mmh. Maintenant, pour revenir un petit peu quand même sur les ressources, il était intéressant peut-être de noter que la Jordanie n'est pas dépourvue entièrement de ressources, hein, puisqu'il y avait des exploitations de potasse, de phosphate. Le tourisme qui jouait un rôle très important avant la crise économique et avant la pandémie. Donc, on connaît tous Petra, Gerache peut-être, et d'autres sites antiques qui attiraient beaucoup de touristes du monde entier, et en particulier des touristes israéliens. Et puis, il y a l'envoi des émigrés, parce que 30% de la population jordanienne émigrait dans les pays du Golfe et envoyait de l'argent à sa famille. Et là, il y a une sorte de rétraction de cette émigration ces dernières années et qui, tout ça, appauvrit beaucoup le marché de l'emploi et les ressources des Jordaniens. Et puis, il y a la présence de 600 000 Syriens, réfugiés syriens, depuis 2011, qui sont pour partie dans des camps tout à fait au nord du pays, hein, que je connais bien, et puis qui sont aussi dispersés dans toute la population et qui sont des concurrents très sévères sur le marché du travail parce qu'évidemment, ils sont prêts à accepter des salaires qui sont bien moindres que ceux des Jordaniens. Donc, voilà pour compléter un peu cette toile de fond qui est, je dirais, structurelle à la Jordanie. Et après, il y a effectivement ce conflit de personnalités qui endosse des rôles, en quelque sorte. Hein. D'un côté, le roi, qui lui-même a été désigné par son père, donc qui est incontestable. Et je pense que tous les Jordaniens sont, disons, satisfaits d'avoir une monarchie. Hein. C'est un facteur de stabilité, c'est un facteur d'unité, d'autant que cette monarchie a effectivement une légitimité ancestrale qui remonte aux prophètes. Hein. Ça joue aussi dans cette population majoritairement musulmane, bien sûr. Mmh. Alors le clivage entre les transjordaniens et puis les gens d'origine palestinienne qui sont devenus majoritaires, hein, qui sont près de 70% de la population, c'est un clivage qui existe, mais il ne faut pas oublier les clivages sociaux. C'est-à-dire qu'il y a une élite d'origine palestinienne qui se sent tout à fait à l'aise avec la monarchie actuelle. Et puis, en contre-champ, il y a des pauvres gens qui sont effectivement, comme le disait Anna Jaber, dans les périphéries du sud et de l'est, qui, elles, sont plus sensibles à la personnalité de Hamza. Alors, il y a ce conflit, mais finalement, il n'est que la résultante de tous ces déséquilibres actuels au sein de la Jordanie. Et puis, on y viendra peut-être, c'est-à-dire une grande question existentielle sur l'avenir de ce pays coincé entre Israël et ses alliés arabes du Golfe. Hein, donc, il y a la question qui se pose pour tous les Jordaniens de savoir à quelle sauce ils vont être mangés, en quelque sorte, et le roi Abdallah est perçu sans doute comme quelqu'un qui gêne Israël, qui gêne les pays du Golfe dans cette union en quelque sorte, hein, parce que Israël rêve d'une confédération entre Israël proprement dit, qui veut occuper jusqu'au rive du Jourdain, et puis la Transjordanie de l'autre côté, pour dissoudre le projet des deux États et pour finalement digérer cette population palestinienne qui reste aujourd'hui dans les territoires occupés.
Ça, c'est bien une question qui panique le roi Abdallah. Jaber, quelques mots pour compléter la question intérieure. Est-ce que le roi va savoir tirer les leçons de ce qui se passe aujourd'hui ? Et Marc Lavergne évoquait l'idée que le roi Abdallah était une personnalité gênante. Est-ce qu'on peut imaginer, puisqu'il a été question de puissance étrangère manipulatrice, est-ce que l'Arabie Saoudite était à la manœuvre dans les événements récents qui se sont passés en Jordanie?
Je suis incapable de répondre en fait sur les si l'Arabie Saoudite était à la manœuvre ou non. Je veux dire, pour le moment, nous ne savons pas du tout grand-chose sur cette espèce de message, on va dire, qui a été envoyé suite à la tension entre Hamza et Abdallah. Ce qui est certain, c'est qu'il y a les réseaux de renseignement saoudiens sont très importants en Jordanie. Et ces facilités, ça a été rendu possible par les circuits migratoires qui sont très anciens. Maintenant, ils ne sont pas les seuls à être présents. Il y a aussi d'autres réseaux de renseignement. Il y a aussi d'autres influences étrangères qui sont particulièrement qui ont l'oreille du roi. Est-ce que le roi quelles leçons il a tirées? il est difficile, c'est-à-dire de répondre dans la mesure où la seule leçon, enfin moi je dirais que le seul message qu'il a tiré, c'est la seule leçon, c'est l'importance d'envoyer un message à l'intérieur et à l'extérieur. C'est le fait qu'il n'y a pas d'alternative, il est la seule alternative au sein de la famille Hachimite. Donc en mettant au pas le prince Hamza, il envoyait ce message à l'intérieur de la population de la Jordanie, et il envoyait également un message aux puissances étrangères qui pouvaient éventuellement réfléchir à une alternative. La question qui se pose à partir de là, c'est d'accord, il est le seul, il se veut le seul, mais comment résoudre l'équation qui consiste à résorber le malaise social tout en restant au pouvoir. Ce n'est pas pour le défendre, et Agnès et Marc savent très bien que j'ai toujours été, enfin bon, les positions critiques. Le fait est qu'il développe un discours depuis plusieurs années, depuis vraiment plusieurs années, il développe un discours qui appelle la population ou la société jordanienne à l'aider pour trouver des solutions. Il prétend ou il affirme que ses services se battent ou ont en face d'eux un état dinosaure, un état profond dinosaure, impossible à réformer. Et qu'il demande, en fait, à un moment donné, il a demandé il y a quelques années, sous Omar Azaz, à la société jordanienne de descendre dans la rue, disons, pour le rendre légitime, pour donner ses ordres de façon incontestable. Alors, je me suis peut-être mal exprimée, mais disons, le message était là, c'est-à-dire « aidez-moi à réformer cet état profond qui ne veut pas ou être réformé ». Et ça, c'est une vraie problématique, c'est-à-dire qu'il y a au sein de l'État jordanien des gens qui sont très contents d'être à leur place, soit par les faveurs qu'ils ont obtenues historiquement, soit par les nouvelles formes d'élites sociales et économiques et financières qui se sont mises au pouvoir avec l'avènement du roi Abdallah. Moi, je dirais ça comme ça. Donc, est-ce qu'il a tiré les bonnes leçons? Je n'en sais rien.
Agnès Levallois. Ce que je voudrais ajouter à ce que vient de dire Hanna, c'est qu'il faut voir aussi que c'est un système qui repose aussi beaucoup quand même sur l'armée et les services de sécurité en Jordanie. Les services de sécurité jouent un rôle tout à fait important de contrôle, de suivi de ce qui se passe à l'intérieur du royaume. Et donc, effectivement, d'un côté, le roi, ce que disait Hanna, c'est que souhaite le soutien de la population pour remettre en cause cet état profond, mais qu'en même temps, il travaille aussi, évidemment, avec ses forces qui sont celles qui tiennent ce pouvoir et qui font en sorte d'avoir ce contrôle sur la population. Et tout ce complot ou ces idées de complot qui ont été révélées montrent quand même qu'il y a effectivement un contrôle très fort de la part de ces services de sécurité qui savent exactement ce qui se passe et qui peuvent mettre en avant ce risque. Est-ce que c'était vraiment un coup d'État? Est-ce que c'était simplement un signal qui était envoyé pour dire à Hamza qui effectivement s'est penché apparemment auprès de proches pour dire que la situation était quand même très mauvaise et qu'il fallait faire quelque chose? En tous les cas, tout ça est remonté au roi, et ce qui démontre bien que ce système, comme les systèmes de la région d'une façon générale, sont des systèmes au sein desquels ces services jouent un rôle extrêmement important, finalement cette espèce de colonne vertébrale de ces systèmes, et qui font que rien n'échappe, et de prendre les choses en main et d'éviter effectivement que la situation ne peuve aller plus loin ou dégénérer alors à l'encontre des intérêts du pouvoir en place. Donc je crois que ça, c'est aussi un élément qu'on voit à travers cette affaire, si je puis dire, de cette omniprésence du rôle de ces services, qui est un élément qu'il faut toujours prendre en compte quand on analyse la situation.
Marc Lavergne, très rapidement, pour terminer cette première partie d'émission, vous partagez ce qui m'a été dit par rapport à...
Mais il y a des éléments un peu troublants, c'est que l'appareil de sécurité est entre les mains justement des enfants de ces tribus bédouines des régions déshéritées du pays, d'une part, et que d'autre part, elles sont supervisées par le Mossad et par les services étrangers considèrent que la Jordanie est un État fragile et qu'il faut être extrêmement vigilant. Donc on est un petit peu... Il y a une sorte de contradiction que je ne m'explique pas bien, justement, entre le fait que il y a une sorte de légitimisme de la part de ces agents de sécurité et d'un autre côté, ils peuvent avoir été aussi à la manœuvre avec des éléments étrangers pour faire un changement à l'intérieur de la dynastie.
Géopolitique, on vous retrouve, Marc Lavergne, avec Anna Jaber et Agnès Levallois après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique regard sur la Jordanie. Nous retrouvons nos invités depuis les studios de nos confrères de Radio France à Lyon. Marc Lavergne, géopolitologue et directeur de recherche émérite au CNRS. Anna Jaber, directrice scientifique de la Fondation Lokman Slim et chercheuse associée à la chaire Histoire du monde arabe contemporain. Et en studio avec moi, Agnès Levallois, maîtresse de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique et vice-présidente de l'IREMO. La Jordanie a un pays singulier au Moyen-Orient où elle entretient une relation complexe avec ses voisins du Golfe. Ces derniers lui octroient des aides substantielles car ils ont besoin que la monarchie hachémite demeure stable. Marc Lavergne en a évoqué dans la première partie de l'émission l'idée que le roi Abdallah de Jordanie, et c'est vous-même qui le disiez, était peut-être une personnalité gênante dans la région. De quoi est-il question exactement ?
Mais il y a une équation un peu particulière, hein, dans la mesure où il a épousé une dame, la reine Rania, d'origine palestinienne. Donc il est accusé ou il est considéré comme étant quelqu'un de pas tout à fait fiable de la part de certains de ses concitoyens, je dirais, des sujets qui sont d'origine transjordanienne. Ça, c'est un premier élément. Un autre est que c'est quelqu'un qui semble effectivement un petit peu désemparé par rapport à tous ces enjeux qu'il y a dans la région, il faut bien le comprendre, c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour lui. Là, il faut savoir que la monarchie hachémite de Jordanie, ben, elle n'est pas très proche, je dirais, de la monarchie saoudienne, hein, puisque les hachémites ont été chassés de leur trône au Hejaz en 1925 par les saoudiens. Donc il y a toujours des difficultés avec ce grand voisin extrêmement pesant. Maintenant, il y a aujourd'hui, aux Émirats arabes unis en particulier, une volonté de s'allier avec Israël de manière extrêmement étroite pour prendre la main sur toute la politique régionale au Moyen-Orient. Et ça s'est traduit par les accords d'Abraham récemment, avec le soutien d'un côté de Donald Trump et de l'autre de Monsieur Netanyahou. Bon, tous les deux sont tombés, donc ça peut avoir précipité l'envie de finalement aboutir à ce projet qui est de neutraliser la Jordanie, le prince Abdallah étant lui-même un peu incarnant cette Jordanie indépendante et qui cherche à garder ses distances tant à l'égard d'Israël qu'à l'égard des pays du Golfe.
Alors, neutraliser la Jordanie, pour en revenir à la question de la relation entre Amman et l'Arabie Saoudite, on l'a compris, Anna Jaber, pour des raisons historiques, les relations sont distantes et on a vu récemment la Jordanie refuser d'envoyer des troupes pour participer à la guerre au Yémen et de bannir les frères musulmans bêtes noires de Riyad. Il y a également le différend sur la Palestine et la question de Jérusalem et de la tutelle sur les lieux saints. En tout cas, ça fait des sujets dans la relation entre Amman et Riyad qui sont particulièrement source de, à défaut de conflits, en tout cas d'interrogations.
Oui, je dirais que en fait, le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël a ramené sur le tapis, en fait, au devant de la scène, c'est la tutelle sur les lieux saints. Et du coup, on se retrouve devant une double légitimité, la légitimité historique hachémite sur ces lieux saints, et ce nouveau venu qui est l'Arabie Saoudite, qui, dans la mesure où l'Arabie Saoudite a la tutelle des lieux saints à la Mecque, se considère tout aussi légitime d'avoir la tutelle des lieux saints à Jérusalem. Ce qui, quelque part, arrange bien Israël, parce que dans le cadre des nouveaux accords et des nouvelles orientations de l'Arabie Saoudite de Mohammed bin Salman. Bien sûr, de ce point de vue, évidemment, le roi Abdallah devient, je dirais, gênant. Il devient gênant dans la mesure où il n'est plus aussi docile qu'il l'était par le passé. Il a été plutôt conciliant par le passé avec Netanyahou et sur beaucoup de points, jusqu'à l'avènement ou jusqu'à l'annonce donc de Jérusalem comme nouvelle capitale et le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Et là, pour le coup, le roi Abdallah a dû prendre position, d'ailleurs, se ranger derrière la position des Jordaniens globales, qui était de dénoncer les nouveaux accords et le projet de Trump pour le deal of the century. Mmh. Mais effectivement, il devient gênant. Maintenant, nous ne savons pas grand-chose de comment vont évoluer les élections en Israël. Ça, c'est une composante importante. Nous ne savons pas comment l'administration Biden va gérer cette question. Et nous ne savons pas non plus comment la situation va évoluer en Arabie Saoudite. C'est vrai qu'il a été gênant, en tout cas pour les Saoudiens et les Émiriens.
Ça fait, Agnès Levallois, beaucoup d'incertitudes. Finalement, on peut rappeler que pendant la période Trump, la relation avec la Jordanie a été, en tout cas la Jordanie a beaucoup bénéficié de cette période avec, en 2016, on peut rappeler l'accord de coopération américano-jordanien sur les questions de défense et une augmentation de l'aide bilatérale. Depuis le début des années 50, la contribution américaine s'élevait à la fin de 2017 à 20,4 milliards de dollars. Et avec Trump, le montant annuel de cette aide pour la période 2018-2022 s'élève à 1,3 milliard de dollars par an, soit un quadruplement. On peut voir une bienveillance américaine particulièrement sous Trump. La question, effectivement, avec Biden, que va-t-il se passer? Ce qu'on voit, en tout cas, et ça a été vrai pendant les 4 ans de Trump, c'est une certaine, finalement, duplicité avec, d'une part, une augmentation de l'aide à la Jordanie, et puis, d'autre part, un contournement total de la Jordanie dans le plan Kouchner que évoquait Anna Jaber à l'instant.
Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la politique de Trump, qui est une politique qui était d'un côté de négocier, d'un côté d'acheter, finalement, et donc, en continuant à donner de l'aide économique à la Jordanie, lui étant dans une logique vraiment de commerçant, si je puis dire, ou d'homme d'affaires, c'était de donner de l'argent à la Jordanie pour assurer la stabilité de la Jordanie, puisqu'il y a cette espèce de consensus autour duquel la Jordanie est un petit pays quand même fragile en raison de ses voisins, on l'a déjà évoqué, et qu'il faut quand même aider ce pouvoir, mais sans tenir compte effectivement du côté politique, qu'il a été géré complètement en contournant le roi Abdallah, et avec un Trump qui devait penser que de toute façon, en donnant de la ressource financière, ça permettait de calmer et d'éviter, en tous les cas, qu'il y ait une quelconque contestation de ce qui s'est passé. C'était évidemment sans compter sur le fait que pour la Jordanie, c'est absolument insupportable, dans le premier sens du terme, de voir qu'un tel contrat ou un tel projet est élaboré complètement en dehors de lui, alors qu'il est évidemment partie prenante de la situation régionale et que la Jordanie est un élément de l'équation, d'autant plus que dans le projet israélien, l'idée, c'est finalement, c'est de transférer les Palestiniens en Jordanie avec ce fameux projet de confédération jordano-palestinienne qui a été abandonné un moment, qui revient parfois. Et donc, pour les Israéliens, l'idée, c'est que l'État palestinien existe déjà, c'est la Jordanie, ce qui ne peut pas plaire évidemment aux Jordaniens qui, même s'ils abritent, on l'a rappelé, une grande population d'origine palestinienne, mais la Jordanie n'est pas la Palestine. Et donc, cette volonté de contourner la Jordanie en lui faisant peser sur elle, finalement, le fait que c'est elle qui doit prendre en compte les Palestiniens, puisqu'on a bien compris et que même s'il n'y a pas encore de nouveau gouvernement en Israël, on voit bien que la tendance de ce gouvernement qui est à droite est de plus en plus à droite. Il est de moins en moins question de laisser une place aux Palestiniens. Et donc, on peut imaginer que dans tous ces plans qui ont été élaborés par Trump et son gendre Kushner, en contournant la Jordanie, c'était aussi de faire en sorte, finalement, que les Palestiniens se retrouvent en Jordanie au détriment de la stabilité de ce pays, puisque la composante transjordanienne du royaume ne peut pas accepter ça de bon cœur. Donc on peut aussi, effectivement, pour revenir au début de cette émission, à imaginer que ce qui s'est passé récemment dans la famille royale a aussi à voir avec toute cette évolution géopolitique, est une évolution quand même profondément instable. On a une instabilité, Hannah le rappelait tout à l'heure, en Arabie Saoudite, on a un pouvoir qui est là, mais on ne sait pas très bien ce qui va se passer. En Israël, il y a des élections qui n'arrivent jamais à décanter la situation et permettre une vraie majorité pour gérer la situation. Un Trump qui est parti, qui a quand même provoqué beaucoup de ravages, si je puis dire, pendant les 4 ans passés, sans que Biden, ce soit une priorité pour Biden aujourd'hui, qui veut remettre en question certaines choses, mais qui ira sûrement pas à l'encontre de tout ce qui a été fait par Trump. Une Syrie qui, aujourd'hui, ne va pas non plus bien, et un rôle très ambivalent de la part de la Jordanie à l'égard de la Syrie. Un Irak qui est pas du tout stabilisé non plus. Et donc, tous ces éléments, effectivement, contribuent finalement à la difficulté de la gestion de la situation jordanienne par le roi, et peut-être donne envie à certains, en tous les cas, de s'immiscer dans cette situation, profitant de cette instabilité et de cette situation extrêmement confuse.
Vous écoutez RFI. Géopolitique.
Alors, ce qu'on sent, Marc Lavergne, avec tout ce qui a été dit depuis le début de cette émission, c'est que finalement, les évolutions géopolitiques au Moyen-Orient ont petit à petit, on parlait des accords Abraham, la Jordanie a longtemps œuvré comme finalement pays intermédiaire entre Israël et les pays arabes. Finalement, les évolutions géopolitiques dans la région ont d'une certaine manière retiré à la Jordanie son importance stratégique.
Oui, vous avez tout à fait raison. Je crois que la Jordanie a été considérée pendant longtemps comme un œil du cyclone, comme un tampon, comme une oasis de stabilité. Donc, elle recevait de l'aide des États-Unis, bien sûr, et de toute la communauté internationale pour jouer ce rôle qu'elle a fait, d'ailleurs, par rapport à la situation en Irak, à la situation dans différents pays de la région, et aussi pour, finalement, aussi permettre d'amortir le choc de la situation des Palestiniens. Aujourd'hui, elle est plutôt un élément gênant dans cette géostratégie, on pourrait dire, qui se met en place autour d'Israël d'un côté, des Émirats arabes unis de l'autre, qui ont, eux, une projection dans l'avenir à plusieurs décennies, et c'est une refonte globale de toute la région, c'est-à-dire que les pays de la péninsule, donc alliés avec Israël, voudraient maintenant reprendre la main d'abord sur la Jordanie, mais ça leur permettrait aussi, finalement, de jouer le rôle qu'ils ambitionnent en Syrie et en Irak, et au-delà, peut-être, de faire pièce aux ambitions des Turcs et des Iraniens.
Alors, Anna Jaber, finalement, qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui ? On a parlé de la baisse de l'importance stratégique de la Jordanie dans la région. D'une certaine manière, c'est un peu un pays qui doit se sentir menacé, peut-être. Qu'est-ce que vous diriez des défis internes et externes de la Jordanie aujourd'hui ?
Je dirais que, enfin, déjà, je voudrais rebondir sur deux points qui ont été évoqués par Marc et par Agnès. D'abord, à propos des services de sécurité, des services de renseignement, tels que Marc en parlait. C'est vrai que ce sont des postes qui ont été pourvus, notamment qui étaient de la part, en fait, des Transjordaniens. Il est important de noter quand même que le dernier, l'actuel chef des renseignements est tout de même d'origine circassienne. Ce n'est pas négligeable dans le maintien des équilibres aujourd'hui actuels. La deuxième chose, c'est qu'en fait, la réaction à l'intérieur par rapport à tout ce sentiment d'instabilité qui a été évoqué par Agnès, c'est précisément une sorte d'un tour de vis sécuritaire très fort. Et je crois que les jeunes chercheurs, il y a pas mal d'autres chercheurs qui travaillent sur ces questions, sur ces nouvelles formes de sécurisation. Et là, on est, il y a quelque chose de très important qui se développe dans ce sens-là, ce qui n'est pas non plus une bonne chose. Là, c'est au niveau intérieur. Et puis, au niveau des renseignements, des services de renseignement, aussi un détail important, c'est qu'il y a plusieurs courants à l'intérieur de ces services et qu'ils ne sont pas tous entièrement d'accord sur les conduites à tenir. Maintenant, dans ce contexte qui a été évoqué très justement d'instabilité au niveau géopolitique, ça me ramène au début de l'émirat de Transjordanie ou du royaume à qui on ne donnait que 2-3 ans d'existence, dans un contexte très mouvant, en fait, dans les années 40. Je me demande, en fait, si on n'est pas toujours dans cette vision de la Jordanie, à savoir que c'est un pays artificiel, créé de toutes pièces, et qu'en l'occurrence, bon, bah, aujourd'hui, il s'appelle Jordanie, demain, il pourra s'appeler autre chose, donc ce n'est pas très important, etc. C'est possible. C'est possible que les acteurs politiques internationaux, en tout cas ceux de la région, ça c'est certain, pense comme ça. Mais ça rejoint aussi une vision plus globale qui a toujours discrédité les sociétés au profit des recompositions géopolitiques. Et il est important aujourd'hui de noter que en Jordanie, malgré le caractère extrêmement composite de la société, malgré les conflits ou les fractures qui peuvent les traverser, les différentes composantes, malgré l'afflux de tous ces Syriens qui sont des centaines de milliers de Syriens qui arrivent et qui sont arrivés et qui prennent place aussi dans le paysage aujourd'hui social et politique, il est important de noter le fait que la Jordanie fait société. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup, et que donc les fractures sont de l'ordre essentiellement des fractures sociales, plus qu'elles ne sont des fractures politiques. Et qu'en l'occurrence, pour faire société, le risque peut-être est d'accepter en fait le tour de vis sécuritaire qui est donné par le pouvoir en place pour maintenir la cohésion autour la cohésion nationale. Maintenant, Après, c'est très risqué, bien entendu, quoi. Mais c'est important, cette espèce de développement ou d'évolution dans ce sens-là est important à relever.
Alors, voilà. Question de survie, d'une certaine manière, Agnès Levallois.
Oui, je crois que ce que vient de dire Hannah est très important sur le fait qu'effectivement, de faire société, c'est-à-dire qu'il y a une vraie société, il y a un vrai peuple, la Jordanie existe, en dépit effectivement de la volonté de certains acteurs régionaux, finalement, de faire comme si c'était simplement un pays très fragile et qu'on pouvait souffler sur ce pays pour qu'il disparaisse. Je crois qu'effectivement, c'est loin d'être le cas. Et que donc, les défis qui se posent pour répondre à votre question au roi aujourd'hui, c'est comment répondre à cette question sociale qui est une question centrale. Et là aussi, je partage ce qui vient d'être dit, à savoir de regarder la Jordanie pour ce qu'elle est et pas simplement un pion géopolitique, que la question intérieure sociale est une question absolument essentielle, qu'on le voit à travers tous ces mouvements de protestation, de contestation qui existent dans le royaume depuis maintenant des années et des années, et que le défi du roi, ça va être, c'est de répondre à cette contestation sociale, de faire en sorte que la vie soit possible pour les Jordaniens, que l'écart de classe entre l'élite qui est à Amman au pouvoir et qui tient bien force ce pouvoir, mais accepte de faire une place aussi à la population jordanienne et que cette population jordanienne puisse vivre correctement, que l'aide qui arrive de l'extérieur soit une aide qui permette vraiment au développement des infrastructures et d'une vraie économie pour que cette économie ne soit pas simplement une économie assistée grâce à cette rente qui vient de l'extérieur. Alors tout ça s'inscrit quand même dans un contexte aujourd'hui économique international extrêmement compliqué et que la pandémie a quand même sérieusement ralenti, puisque Marc tout à l'heure parlait effectivement du tourisme qui est une ressource importante du royaume. Le royaume va mettre du temps à pouvoir retrouver une certaine croissance économique en s'appuyant sur les revenus des Jordaniens à l'extérieur et le tourisme. Donc on voit bien que ces défis sont des défis économiques et sociaux essentiels et que si le roi arrive à répondre à ces défis économiques et sociaux, il sera plus fort en interne pour aussi résister aux volontés des puissances régionales de jouer, si je puis dire, sur ce territoire jordanien ou d'utiliser ce territoire jordanien pour des luttes qui peuvent mettre à mal le devenir du royaume. Donc c'est vrai que le principal défi, me semble-t-il, du roi aujourd'hui, c'est véritablement de consolider la position en interne en accédant aux demandes de la population qui s'exprime régulièrement pour faire en sorte que cette Jordanie continue à être bien installée et ne soit pas fragilisée par tous ces jeux de puissance régionale et internationale, puisqu'effectivement, il y a des projections de puissance aujourd'hui de la part des pays du Golfe sur la Jordanie et au-delà qui sont extrêmement importants.
Marc Lavergne, en guise de conclusion.
En guise de conclusion, je suis tout à fait d'accord avec le fait que les Jordaniens, dans leur ensemble, sont attachés à la monarchie, à leur pays, et que ils ont conscience que il faut s'unir finalement autour d'un roi, je dirais, mais d'un roi qui non seulement permettrait de continuer à recevoir des ressources de l'extérieur ou à générer des ressources à l'intérieur, mais qui aussi rétablirait une justice sociale, parce qu'effectivement, le clivage essentiel, on le voit dans le Hirak qui se déroule en Jordanie, on le voit dans toutes ces manifestations, ces grèves, eh bien c'est un problème social qui est essentiel. Donc la question du partage du gâteau, je dirais, se pose aujourd'hui pour la première fois avec une acuité tellement grande. Et est-ce que le roi sera capable de faire entendre raison aux bénéficiaires de ce système? On parle beaucoup de cette corruption qui gangrène l'État jordanien. Eh bien c'est ça son principal défi avant d'essayer d'augmenter finalement les ressources du pays.
Merci Marc Lavergne. Je rappelle que vous étiez depuis les studios de nos confrères de Radio France à Lyon, que vous êtes géopolitologue et directeur de recherche émérite au CNRS. Merci également à Anna Jaber, directrice scientifique de la Fondation Lachman Slim et chercheuse associée à la chaire Histoire du monde arabe contemporain, et Agnès Levallois qui était avec moi en studio, maîtresse de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique et vice-présidente de l'IREMO. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. La semaine prochaine, c'est Chantal Leroux que vous retrouverez. À très bientôt.